Bonjour à tous. Ça ne vous embête pas si je garde mes chaussures parce que j'ai oublié le pareo ce matin. Voilà, je suis contente d'être parmi vous, même si ce n'est pas un exercice facile pour moi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une nièce qui vit aux États-Unis et qui a adopté un enfant lourdement handicapé. Bon, j'en ai parlé à plusieurs d'entre vous. Vous connaissez peut-être déjà un petit peu l'histoire. Et donc, cette nièce a adopté ce petit qui s'appelle Eli, en toute connaissance de cause. Elle savait qu'il était lourdement handicapé, alors qu'il était missionnaire au Mexique et travaillait dans un orphelinat. L'enfant a été enlevé à sa famille biologique par la grand-mère parce qu'il était victime de mauvais traitements depuis sa naissance. Il est arrivé de nuit chez ma nièce, âgée de 6 mois, et la première nuit, elle n'était pas sûre qu'il allait vivre. Et durant cette nuit tragique, il y a eu 2 miracles. D'abord, l'enfant a survécu malgré la maltraitance et la malnutrition. À 6 mois, il ne pesait que 4 kilos, je ne sais pas si vous voyez. Et il est devenu son enfant. Elle ne peut pas expliquer comment, mais en une nuit, il est devenu son enfant. Elle ne l'a pas attendu 9 mois dans le ventre, elle l'a eu juste une nuit. Elle n'avait pas prévu d'adopter un enfant. D'abord, il s'occupait plutôt d'adolescents. Mais c'était une évidence. Ce bébé était le sien. Et vice-versa. Le bébé, à partir de ce moment-là, ne voulait plus quitter les bras de sa maman. Le bébé est devenu un jeune homme. Aujourd'hui, il a 19 ans. J'ai pu suivre, avec Paul, on a pu suivre de loin son développement physique et psychologique. Évidemment, il est toujours lourdement handicapé puisqu'il ne peut pas parler. Il communique en langue des signes, mais bon, c'est difficile de le comprendre. Il marche parce qu'il a eu pas mal d'opérations. Il ne tient pas en place, même pendant les repas. Et ça, parfois, c'est éprouvant, je vous l'assure. Ils sont venus à la maison plusieurs jours. Et voilà. Il est très, très émotif et peut avoir des réactions inopportunes. Mais il a fait d'énormes progrès sur tous les plans psychologiques, physiologiques et spirituels. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ses parents continuent de se battre pour qu'il progresse encore. Sans les soins constants de ses parents, il ne serait pas loin d'être un légume aujourd'hui. Alors maintenant, vous devez vous demander, ben pourquoi est-ce qu'elle nous raconte tout ça? Qu'est-ce que ça vient faire ce matin? Eh bien, cette nièce m'a donné, par son attitude et son engagement vis-à-vis de son fils, une leçon spirituelle. Elle aime inconditionnellement. En fait, Dieu... C'est la leçon spirituelle que j'ai retenue. Dieu nous aime aussi inconditionnellement. Quand moi, je regarde Eli, je vois tout ce qui ne va pas, tout ce qui lui manque. J'ai beaucoup de mal à supporter son comportement au quotidien, ses grognements, sa façon de manger, le fait qu'il tourne sur lui-même. Heureusement que Dieu ne me regarde pas comme moi, je regarde Eli. Qu'il ne s'attarde pas sur mes défauts, qu'il pardonne mon péché tous les jours. Alors, je vais essayer de faire marcher la zapette, c'est à droite. Ah non. Ah, il y avait déjà le débit. Parce qu'il y a d'un côté Dieu et son amour inconditionnel versus de l'autre côté l'homme et son péché tout aussi inconditionnel. Et pour étayer ce propos, je vous invite à lire plusieurs textes dans Exode. Tout d'abord, le premier texte, c'est dans Exode 32. On fera la lecture du verset 1 à 7, puis après on sautera parce que c'est quand même un peu long. Les versets 19 à 24, ça se passe quand Moïse descend du Sinaï avec les premières tables de la loi et qu'il se rend compte que le peuple s'est construit un veau d'or, une idole pour remplacer le vrai Dieu. Alors j'arrive pas à lire ici, donc je vais vous tourner un petit peu le dos et je vais lire ici. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Comme Moïse approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Alors, cet épisode est un bel exemple du péché inconditionnel des hommes versus l'amour inconditionnel de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, chaque fois que je lis ce texte, il m'interpelle. Il m'interpelle parce que d'abord, le peuple d'Israël a vécu des miracles impressionnants depuis la sortie d'Égypte. Dieu l'a fait sortir d'Égypte en manifestant sa puissance par des miracles, tous plus étonnants les uns que les autres. Il y a d'abord eu la nomination par Dieu de Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Comme miracle, on ne fait pas mieux. Il y a eu la sortie victorieuse d'Égypte. Ils ont dépouillé au passage les Égyptiens d'objets d'or, d'argent et de vêtements. C'est ce qui a permis de fabriquer ce veau. Il y a eu le passage à sec de la mer Rouge, le passage de Pharaon et son armée qui les poursuivaient, eux, ben ils ne sont pas passés à sec, hein, ils ont été noyés. Il y a eu l'eau qui a jailli à Mara quand ils mouraient de soif. Il y a eu la manne et l'écaille qui tombaient du ciel quand ils étaient affamés. Et puis il y avait la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit pour les conduire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Après tout ça, la moindre des choses, c'est que ce peuple exceptionnel, pas parce que c'est un peuple exceptionnel, mais parce qu'il a été choisi par Dieu, soit un tant soit peu reconnaissant et l'adore lui seul. Eh bien non. Attendre 40 jours dans le désert que Moïse revienne, c'est trop long. L'impatience et le doute se sont installés. Bon, c'est facile de juger, mais nous, comment on fait? Comment est-ce qu'on gère l'attente quand... On prie et que ça, il n'y a rien qui vient. Qu'en est-il de notre patience quant aux promesses qu'on a lues, mais qui ne sont pas encore réalisées? Et est-ce qu'on n'a pas aussi tendance à oublier les bénédictions, les miracles, hein, passés? La deuxième chose qui m'interpelle dans ce texte, c'est l'attitude d'Aaron. Le grand frère de Moïse était son porte-parole, car Moïse n'avait pas la parole facile. C'est ce qui est dit en Exode 13. Versets 10 à 13. Ainsi, Aaron s'était approprié le plan de Dieu, puisqu'il l'avait partagé avec Moïse. Et il était aux premières loges pour voir Dieu à l'œuvre. On attendrait plus de consistance de la part de ce grand frère. Bon, c'est vrai qu'il annonce, après avoir fait le veau d'or, il annonce une fête en l'honneur de l'Éternel pour contrebalancer l'idolâtrie. Bon, c'est un peu tard, et puis surtout, ce n'est pas à l'échelle du péché commis, hein. C'est facile de juger Aaron. Mais est-ce que je n'ai pas moi aussi tendance à m'arranger avec la volonté de Dieu, à vouloir l'aider à émerger ou à la devancer? Troisième point qui m'interpelle, c'est le veau d'or. Le veau d'or apparaît soudainement, on jette de l'or dans le feu et il apparaît. On a du mal à décrire précisément à quoi ressemblait le veau d'or. On ne connaît ni sa taille, ni son poids, ni sa forme. On sait juste qu'il a été fabriqué à partir d'anneaux d'or qui pendaient aux oreilles des femmes, des filles et des fils des hommes d'Israël. Toutes les personnes qui réclamaient ce veau d'or réclamaient un Dieu visible pour l'adorer. En Exode 32, verset 1, un Dieu qui marche devant nous. On peut noter que le veau d'or ressemblait étrangement au dieu Apis, un dieu vénéré parmi les Égyptiens. C'est dur, hein, de s'affranchir de son passé. En revanche, Quelle précision quant à la construction de la demeure de Dieu. C'est ce qu'on voit dans un autre texte, en Exode 35, versets 4 à 19, qui relate le début de la construction de la tente de la rencontre. Alors là aussi, ça va être un peu long. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases. Ça va être un peu fastidieux. Hein. L'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles, les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis, leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire et les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdote. Alors il y aura des images qui seront quand même plus parlantes que toute cette description. En tout, la description du tabernacle dure 6 chapitres. Il y a 7 versets pour parler du veau d'or. Cette description est tellement détaillée, voilà, c'est quand même un peu plus parlant, et sophistiquée qu'elle permet aujourd'hui de reproduire en grandeur nature la tente de la rencontre. Et pas seulement ce sanctuaire itinérant, mais aussi comment devaient être habillés les prêtres pour y officier. Rien que la description des habits sacerdotaux couvre presque tout le chapitre 39. Les instructions y sont tellement détaillées, on va même jusqu'aux sous-vêtements. Quelle précision dans toutes ces descriptions et quelle magnificence au milieu du désert. Rien n'est laissé au hasard. D'abord, tout est préparé d'avance. En Exode 25-40, Dieu donne un modèle à Moïse sur la montagne. Et toutes les dimensions sont indiquées. Tous les matériaux à utiliser sont décrits. Là, il y a une description où on voit les. Bon, il y a d'autres chapitres qu'Exode, mais on voit à chaque partie où est-ce qu'elle est détruite. On pourrait jouer au jeu des chiffres et des lettres avec ces mesures et les matériaux utilisés. On a vu qu'il y avait de l'or, il y en avait pour 1000 kilos, il y avait 3440 kilos d'argent, et puis on ne compte pas le cuivre, l'airain, le bronze, puis différents alliages de métaux, le bois d'acacia, alors que nous sommes en plein milieu du désert. Pour l'aménagement interne, on a lu qu'il y avait plusieurs fois des ustensiles. Alors je suis allée chercher quels étaient ces ustensiles. Ils sont décrits en nombre et en matière. Donc il y a des pincettes, des mouchettes, des anneaux, des lacets, des agrafes, des coupes, des bols, des carafes, des calices. Et les chiffres, ils émaillent, donc ça c'était pour les lettres, et quant aux chiffres, ils émaillent le texte tout au long du chapitre 36. On a tout dans le détail, le nombre de piliers, de colonnes, de planches, la longueur des tapis et des rideaux, etc. etc. Alors j'ai un livre... J'ai un livre qui illustre tout ça. Si ça vous intéresse, je peux le prêter. Alors, que peut-on dire de cette différence entre la fabrication d'une idole et d'un lieu de culte pour le Seigneur? Je vous rappelle, 7 versets pour le veau d'or et 6 chapitres pour la demeure de l'Éternel. J'ai plusieurs suggestions à vous soumettre. C'est facile d'aller au péché, on y va vite. mais on prend un peu plus le temps de la réflexion pour obéir à Dieu. L'obéissance de la part du peuple dans ce lieu hostile qu'est le désert est une mise à l'épreuve sur un long terme. Voilà, Dieu ne voulait pas une... Ah oui, zut, j'ai péché. Et puis non, il voulait que le peuple digère bien ce qu'il avait fait. Et le peuple ne fait-il pas acte de repentance collective en se souvenant du passé et en se montrant incroyablement généreux en offrant ses richesses pour fabriquer le lieu d'adoration du Dieu invisible? On peut aussi voir le travail de construction de la demeure de Dieu comme une conversion. Le peuple tourne le dos à l'idole du veau d'or et à son péché. Et c'est un moment fort de construction du peuple d'Israël, peuple uni par le sang, mais là maintenant aussi uni par l'obéissance au seul vrai Dieu, le peuple mis à part. On a vu qu'il y avait 6 chapitres pour décrire comment construire la demeure sacrée pour Dieu. Et il y a une énumération détaillée de matériaux utilisés, de mesures à respecter, une profusion d'indications sur qui fait quoi, ça on n'en a pas parlé, mais il disait comment il fallait le faire et qui devait le faire. On a vu comment le peuple se rend disponible, donne non seulement de son temps, mais aussi de ses richesses, tout ça en plein désert, je vous rappelle. Mais c'est bien beau tout ça, tous ces chiffres, cette magnificence, cet engouement de la part du peuple, mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Quel est le but ou l'objectif poursuivi ? Parce que Dieu aime vivre au milieu de son peuple. La construction du tabernacle avec tous ses détails, tout le temps que cela a nécessité, tous les efforts à fournir est une pédagogie de Dieu envers son peuple, pour lui apprendre à obéir dans les moindres détails et à recevoir en retour toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour eux. Car Dieu souhaite entretenir une étroite relation avec son peuple, que ce peuple lui fasse confiance, qu'il garde espoir et qu'il reste en communion avec lui, malgré tout ce qu'il va vivre. La nuée qui recouvre le tabernacle est le signe de communion et d'espérance. Oui, l'Éternel marchera encore avec son peuple. Et c'est cette nuée qui les conduira jusque dans la terre promise. De même, quelques siècles plus tard, Jésus a été transfiguré devant ses disciples, c'est ce qu'on lit en Matthieu 17. Une nuée lumineuse enveloppa Jésus et Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Alors que nous sommes encore dans la traversée du désert ici-bas, Jésus veut nous conduire dans son royaume promis, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël. Le miracle de la réhabilitation est toujours possible quand le cœur de l'homme est bien disposé. Miracle rendu possible par la grâce de Dieu qui veut résider au milieu de nous. Et ça aussi, c'est un miracle. Par amour, l'Éternel a délivré les Israélites. Il a conclu une alliance avec eux pour qu'ils restent dans sa grâce et leur a donné des instructions pour le tabernacle et la tente de la rencontre. Car Dieu est un Dieu vivant. Il aime vivre au milieu de ses enfants. Et de même, Jésus a campé parmi nous. C'est ce qu'on peut lire en Jean 1, 14. Il a traversé la tente de la rencontre en versant son sang sur la croix. C'est ce qu'on vient de se remémorer. Et c'est ce qu'on peut lire en Hébreux 9, versets 11 et 12. Ce que Dieu a fait du temps de Moïse préfigure ce que Jésus fera environ 15 siècles plus tard. On a vu que Dieu veut vivre au milieu de son peuple et qu'il l'aime d'un amour inconditionnel. On a vu, hélas, que le peuple répond souvent et répondra souvent par le péché, lui aussi inconditionnel, car de nature humaine, depuis la chute. Mais ce que j'aime quand on zoome sur cet épisode de la construction du lieu de culte dans le désert, c'est l'harmonie entre le désir des hommes et celui de Dieu. Les Israélites ont réalisé le tabernacle comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et ce « comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse », on le lit 7 fois dans Exode 39, au verset 1, au verset 5, au 7, au 21, au 26, au 29, au 31. Et encore 7 fois dans le chapitre suivant. Mais là, il est dit, c'est Moïse qui a fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Et on peut le lire au verset 19, 21, 23, 25, 27, 28, 20, un verset sur deux. 7 étant le chiffre de la perfection, ils ont obéi à la perfection. C'est un vrai miracle quand on connaît le cœur versatile de ce peuple qui d'abord ne veut pas quitter l'Égypte, qui ensuite veut y retourner, qui s'est prosterné devant le veau d'or. Avec la construction de la demeure de Dieu, en respectant à la lettre et au chiffre ce qui est demandé, on assiste à un changement profond d'attitude du peuple. Et cette harmonie entre Dieu et son peuple va encore plus loin que la construction du temple de la rencontre. Le peuple qui sort en catastrophe d'Égypte est transformé. D'esclave, il devient libre. De pauvre, il devient riche. De peu instruit, il devient érudit, puisqu'il avait la loi de Dieu. De pécheur ignorant la loi divine, il devient le peuple élu et saint. Et plus tard, ce peuple sans terre, peuple SDF, va conquérir la terre promise. Quel parcours ! Tout cela, Israël l'obtient par grâce. Rien à voir avec sa valeur propre et ses mérites. Comme nous aussi, nous obtenons le salut de Jésus grâce à son amour inconditionnel. Alors, quelle réponse donner en retour de cet amour inconditionnel ? Et la réponse naturelle, c'est de donner en retour. C'est ce que fait le peuple dans le désert et c'est ce que nous sommes appelés à faire à notre tour, selon nos richesses, nos compétences, nos possibilités, notre temps disponible, notre saison de vie. Je fais le lien avec ce qui se passe en 2 Corinthiens 8, où Paul envoie Tite porter des offrandes des chrétiens de Macédoine aux chrétiens de Jérusalem. Dans ce texte, Paul nous dit que le don est un acte d'adoration, de compassion, d'oubli de soi et un privilège. Le don est dans la nature même de Dieu, car c'est une manifestation de sa grâce. J'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup plu. Le don, c'est comme une danse à deux temps. Je reçois et je donne. Ou je donne parce que j'ai reçu. L'avarice est un péché spirituel, car il dénote le manque de foi. Dieu veut nous débarrasser d'une mentalité de pénurie et veut nous aider à découvrir les sources de générosité là où nous sommes. Dieu est propriétaire de toutes les ressources et donne sans faire de favoritisme. Comme dit la Bible, il fait pleuvoir sur le méchant comme sur le juste. Nous pourrions nous sentir pauvres et tellement inaptes. Satan aime quand on se dévalorise. Mais Dieu nous a donné tellement de ses richesses, que fait-on avec ? Le peuple dans le désert savait que Dieu pourvoit. Il l'a expérimenté avec l'eau à Mara, la manne, l'écaille. Intellectuellement, moi je sais que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Je l'ai lu à plusieurs reprises dans la Bible. On peut le lire dans 1 Roi 17 où Élie est nourri par des corbeaux et plus tard par la veuve de Sarepta. On peut lire au verset 8, c'est Dieu qui parle, ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Ou encore dans Matthieu 6, versets 25 à 34, où il est dit 4 fois, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, du lendemain, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez et comment vous serez vêtus. » L'absence d'inquiétude ne nous empêche pas de gérer les ressources que Dieu nous a confiées. Nous avons notre part à jouer, mais sans angoisse ni souci du lendemain. Et nous aurons la paix qui surpasse tout si nous sommes là où Dieu nous veut, dans son plan. Dieu ne nous supporte pas seulement, comme moi je supporte Eli quand il vient, mais nous aime comme nous sommes et en même temps, il veut nous faire grandir et évoluer à sa ressemblance. Je vous invite à réfléchir cette semaine sur qu'est-ce qui m'empêche de m'approcher de Dieu actuellement. Est-ce une peur, une infidélité, une injustice, mon orgueil, une blessure ? Je vous invite à prier.